Hélène Pedneau. Une série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Troisième série, la déposition. Deuxième partie. On s'est quitté un peu froidement hier. Excusez-moi, j'ai été un peu brusque avec vous. Très bien, je respecte votre silence. On va essayer de s'y retrouver, je vais tenter un résumé. Vous m'approuverez ou me corrigerez si je me trompe. Je me contenterai d'un signe de tête. Vous fumez ? Même mon feu, vous ne l'acceptez pas. Vous ne me facilitez pas la tâche. C'est vrai que vous êtes une personne très autonome. Avec ce blitz anti-tabac, les attentats qui se multiplient contre les fumeurs, on sera obligé bientôt de prendre le maquis. Je ne peux fumer maintenant que dans ce cocon qui me sert de bureau. C'est désolant. En fait, je pense que c'est la culpabilité de continuer de fumer malgré les injonctions qui va finir par tuer tous les fumeurs. Pas le cancer du poumon. On deviendra des loques rongés par la culpabilité. Est mort de culpabilité le 18 juillet dernier. Une nouvelle rubrique dans les statistiques. Parce que la culpabilité tue. Vous saviez ça? Je ne réussis même pas à vous faire rire. Ma mère me disait toujours que quand on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Bon, venons-en au fait. Je me rends compte que je suis en train de copier votre style. Je fais dans la digression. Je suis un peu caméléon sur les bords, je prends la couleur des murs, des ambiances, des vocabulaires qui circulent dans une pièce. Je suis une éponge insatiable. On se demande parfois comment on peut arriver à contenir toutes ces eaux en même temps. Claire, trouble, stagnante, impétueuse. Je copie l'inspecteur Maigret. Je suis loin d'avoir son physique, mais je peux devenir aussi épais que lui. Épais dans le sens de la densité, bien sûr. Je me suis laissé dire que vous aimiez beaucoup les romans policiers, c'est exact ? Vous soupirez. Je n'ai aucun talent pour la conversation de salon. Moi qui voulais vous détendre, je vous ennuie. Alors venons-en au fait. Oui, on a fouillé dans vos papiers. Oui, on veut prouver le meurtre avec préméditation. Nous avons tous les droits à partir du moment où il y a eu meurtre. Un meurtre, quelqu'un tue quelqu'un d'autre, lui enlève sa vie. L'attaque la plus grave contre la propriété. Personne n'a le droit de faire ça. Et vous, vous l'avez fait. En plus, vous y avez pensé pendant très longtemps. Vous avez prémédité votre geste soigneusement. Alors pourquoi vous entêter à nous raconter votre vie jusqu'au plus infime détail plutôt que de nous dire simplement « J'ai tué ma mère. J'ai tué ma mère parce que je la détestais profondément. Mon geste est l'apothéose d'une formidable histoire de haine. Dites-le. »«
Oh, ça va. J'ai haï ma mère. Rien de plus banal. »
Tiens, le chat vous a remis votre langue. Mais cette banalité se rend rarement jusqu'au meurtre.
Je ne l'ai pas tué. Je me tue à vous dire que c'était un accident, un déplorable accident.
Déposition de garde Jeanne Bouchard. Quand je suis entrée dans la chambre vers 2h du matin, l'accusée tenait à la main une seringue hypodermique et regardait fixement le visage de sa mère, etc. Tout y est. On appelle ça un témoin oculaire. C'est suffisant pour vous faire condamner. Je n'ai même pas besoin de vos aveux. Si je continue, c'est pour vous. Uniquement pour vous.
Oh, un cœur tendre.
Je pourrais classer cette affaire en 5 minutes si je voulais et vous abandonner à votre procès.
Alors qu'est-ce que vous attendez ?
Quelque chose me retient. Je ne sais pas quoi. Je n'aime pas les choses trop évidentes et je n'aime pas non plus vos explications insensées. Je veux vous faire entendre raison. Entendre raison. Ça dit bien ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi vous vous entêtez dans vos absurdités d'accident. Ça ne colle pas. Vous n'êtes pas folle du tout. Vous visez une réduction de peine pour cause de folie ou quoi, c'est ça ? Vous pouvez me le dire, on n'a pas de témoin.
Quand on est aveugle, inspecteur, on peut difficilement se crever un point noir.
Qu'est-ce que vous me chantez là ?
L'unique chanson que je connaisse, la chanson du destin aveugle, comme l'amour, comme la haine. Vous voulez que je vous la chante ? Le 11 juillet dernier, nous sommes devenus 5 milliards à cohabiter sur la même boule. Ce n'est plus une planète, c'est un kyste monstrueux. 5 milliards d'aveugles, monsieur l'inspecteur, c'est beaucoup, non ? C'est l'ONU qui nous a annoncé la bonne nouvelle, je l'ai découpée dans la presse. Vous n'avez pas trouvé cette découpure en fouillant dans mes affaires ?
Tiens, elle a dû vous échapper.
Vous n'êtes pas très minutieux dans la police. Vous pratiquez encore avec bonne humeur la technique de la grosse bottine cloutée sur les doigts d'enfant. C'est pourtant une pièce à conviction, tout aussi importante que mon souvenir d'enfance que vous avez profané. Nous sommes 5 milliards, monsieur l'inspecteur, et vous perdez votre temps avec l'histoire banale et sans intérêt de deux individus qui n'y sont pas arrivés. Quel luxe!
Arrivé à quoi?
À vivre, simplement à vivre, et l'une a tué l'autre pour que ça finisse. N'importe quoi, n'importe comment, pourvu que ça finisse.
Vous avouez?
Je n'avoue rien du tout. Je maintiens que c'était un accident. Un accident de la haine ou un accident de la route, c'est pareil. Ça ne pouvait pas finir autrement entre nous. Elle agonisait depuis 8 jours, inspecteur. Elle se vidait de son sang. On la remplissait par le bras et elle se vidait à mesure. C'était absurde. Ça faisait 20 ans qu'elle essayait de mourir et qu'elle n'y arrivait pas. Elle n'était pas douée. Et une nuit, pendant que je lisais à côté de son lit, je l'ai regardée distraitement, comme je faisais souvent. Je vous jure, inspecteur, distraitement. Et elle est morte. Je ne savais pas que j'étais chargée. J'étais comme un fusil qu'on nettoie et qu'on croit vide. Je l'ai regardée et elle est morte. Ma décharge lui a fait un énorme trou au cœur. Il y avait du sang partout et un trou dans le mur derrière sa tête aussi. Il y avait des trous partout, du sang partout. J'étais tellement désolée, comme devant une grosse gaffe qu'on ne peut pas rattraper. Je ne savais pas quoi faire. Et c'est là que garde Jeanne Bouchard, votre fameux témoin à charge, est entré. Je lui ai dit « Elle est morte, regardez, elle est morte. Je ne voulais pas lui faire de mal. »
Vous fabulez.
Je ne croyais pas que la haine pouvait être quelque chose d'aussi autonome. Je croyais la contrôler habilement, comme tout le monde. Ce sont des choses qui arrivent, vous savez, la haine, la perte de contrôle, toutes ces choses.
Ça suffit, il n'y avait ni blessure, ni sang.
Si, il y avait du sang partout, je ne voyais que ça.
Il n'y avait pas de blessure, il n'y avait pas de sang. Il y avait qu'un petit trou d'aiguille de plus au creux du bras de votre mère, un petit trou par lequel vous avez injecté de l'air, ce qui a provoqué une embolie mortelle. Si garde Bouchard n'était pas arrivé par hasard à ce moment-là, vous commettiez un crime parfait. Tout le monde n'y aurait vu que du feu. Après tout, votre mère se mourait déjà. Même technique que dans le livre de Dorothy Sayers, Arrêt du cœur, que j'ai trouvé dans votre bibliothèque.
Vous auriez dû fouiller davantage parce que le même type de meurtre se retrouve aussi dans La danse de Salomé, de Ruth Rendell. Elle fait référence elle aussi à Dorothy Sayers, la première à avoir utilisé cette technique. Dans le cas de Rendell, le trou de l'aiguille se perdait dans une série de piqûres de guêpe. C'est une technique qui semble se passer d'une femme à une autre. Curieux, n'est-ce pas? De Sayers à Rendell.
À Fulvi. Une preuve supplémentaire de préméditation. Comme si j'en avais besoin d'une autre. Vous disiez souvent à vos amis que vous saviez comment commettre le crime parfait. Cessez ce jeu cruel. Avouez simplement que vous détestiez votre mère et que vous l'avez tuée froidement après y avoir pensé pendant des années. À la limite, vous pourriez invoquer l'euthanasie puisqu'elle agonisait et qu'elle souffrait. Ça pourrait même vous valoir beaucoup d'alliés par les temps qui courent. Et une réduction de peine.
Parfois, vous me faites penser à ce que mon père n'était pas.
Vous racontez vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire encore?
Vous ne ressemblez pas du tout à mon père. Mon père me plaisait. Il n'était pas compliqué comme vous.
Pendant une minute seulement, si vous pouviez parler comme tout le monde, on pourrait peut-être se comprendre.
Je ne peux pas. Je suis sous le seuil de la pauvreté. Je n'ai jamais eu le temps d'apprendre à parler comme tout le monde. Vous saurez que détester sa mère à ce point-là est un travail à temps plein.
Je vois.
Vous ne voyez rien du tout. Je suis sûre que vous passez la tondeuse le dimanche matin dans votre banlieue en ne sachant même pas que vous emmerdez toute la rue entourée de vos enfants qui aiment leur papa.
Tout le monde tond son gazon le dimanche matin en banlieue. On appelle ça « the suburban symphony ». En passant, je suis célibataire et j'habite une tour de centre-ville. Ça vous va quand même? Pas trop déçu? Bon.
Donnez-moi une cigarette.
Savez-vous que c'est la première fois que vous me demandez quelque chose? Je suis flattée. Je vais même vous l'allumer moi-même. Comme dans les films de guerre, 2 soldats sont dans une tranchée la nuit, dans le noir. L'un s'allume une cigarette et il en allume une à l'autre en même temps, les 2 cigarettes ensemble dans sa bouche. Il la passe, en silence, à son compagnon, en aspirant la première bouffée avec le contenu complet de ses poumons, bruyamment. Puis, en expirant lentement la fumée, sa tête appuyée contre les sacs de terre qui servent de mur. Il me semble avoir vu cette image très souvent dans les films de guerre. Leurs visages sont sales, leurs yeux paraissent plus blancs et brillent dans la pénombre comme des sentinelles, des petits phares, uniquement éclairés par la minuscule braise de leurs cigarettes. C'est beau. Ils sont fatigués. Ils sont en dehors de l'espoir. Ils attendent, même pas la victoire. Ils attendent quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. Je me sens comme ça avec vous. J'ai peur. Je n'ai pas peur de vous. J'ai peur avec vous. Il y a des images semblables dans les films sur les prisons. 2 prisonniers dans le noir de leurs cellules, silencieux, étendus sur des lits étroits superposés. Au mieux, ils se disent une phrase. « Tu veux une clope ?» En argot, quand le film est doublé par des Français la plupart du temps.
Vous n'avez pas à avoir peur, moi, je n'ai pas peur. Je suis capable d'assumer ce qui s'est passé, comme je serais forcée de le faire si par mégarde je tuais un enfant qui traverse la rue sans regarder. Que voulez-vous que j'y fasse ? La vie continue. J'irai en prison parce que personne ne veut me croire. Je vivrai une injustice parmi d'autres. Et un jour, je sortirai de prison, c'est tout. J'en profiterai pour écrire, j'aurai la paix. Et je vendrai très cher mes mémoires. Ça se porte beaucoup en ce moment, les mémoires.
Comprenez-moi bien, je n'ai pas peur pour vous. J'ai dit que j'avais peur avec vous. J'ai peur aussi, autant que vous. Vous avez un talent fou pour les routes secondaires. Les chemins de traverse, le moindre petit sentier invisible, vous le prenez. Et vous oubliez qu'il y a des routes principales, des autoroutes de soleil où l'on peut filer à toute vitesse. Les sous-bois, c'est mon métier. On les élimine à coups de faux.
Et de vrai. À coups de faux et de vrai, il faut dire. Mais où est le faux et le vrai? Je n'ai jamais su. C'est peut-être la cause de l'accident, d'ailleurs.
Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous vous obstinez dans cette thèse irréelle de l'accident et je veux le savoir. Je veux que vous admettiez avoir tué votre mère en toute conscience avec une seringue hypodermique. Le seul fait d'avoir transporté cette seringue dans votre sac prouve la préméditation. Ce n'est pas du tout le type de crime passionnel où l'on tue avec ce qui nous tombe sous la main. Vous l'auriez étouffé avec un oreiller, ce serait différent. Mais il vous a fallu vous procurer cette seringue, la mettre dans votre sac et attendre le moment propice pour accomplir votre sale travail. Et la raison de ce geste est simple, vous détestiez profondément votre mère.
Mais je n'ai jamais nié que je détestais ma mère, si c'est ça que vous cherchez à me faire dire. Mon père, je m'accuse d'avoir haï ma mère, mea culpa. Je me tue à vous le dire et pourtant je ne meurs jamais.
Vous m'exaspérez. Je suis une bonne patte, mais je viens de toucher ma limite. Grâce à vous, merci, je m'en souviendrai. Éteignez la lumière derrière vous. On fait de la résistance ? Ça ne fait rien. Je préfère votre silence à vos conneries. Tournez votre chaise vers cet écran. Voilà. Voulez-vous une cigarette avant de commencer notre séance de torture ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, de torture. Après tout, on est bien dans un poste de police, ça va commencer à paraître. Fini la psychologie douce. Vous allez quand même prendre une cigarette parce que je pense que vous en aurez besoin bientôt. Il parle vidéo.
Déposition de Laura Fulvie, sœur de l'accusé. J'imagine que la déposition de Laura a lieu le matin. Un rayon de soleil arrive de quelque part. La déposition de Lisa a lieu dans la même journée, mais plutôt en fin d'après-midi. L'éclairage est donc différent. C'est la seule indication du temps passé. Leur visage n'est pas éclairé du tout de la même façon. La personne qui pose les questions, homme ou femme, est de dos. On entend sa voix. C'est peut-être le même inspecteur.
Laura Fulvie, 40 ans. Vous êtes l'aînée ?
Oui, l'aînée des trois filles. J'ai 6 ans de plus qu'elle, alors vous pensez si j'en ai vu ? J'ai toujours prédit que ça finirait comme ça.
N'allons pas trop vite. Que faites-vous dans la vie ?
Je suis secrétaire légale depuis 23 ans. Je travaille en ce moment chez Brabant, Simard et Associés depuis 8 ans.
Statut civil ?
Divorcée, 2 enfants à ma charge. J'avais marié un irresponsable.
Je n'ai pas besoin de ces détails. Je veux que vous me parliez de votre sœur Léna uniquement.
C'était une sorte de monstre dans son genre. Elle m'a toujours vaguement fait peur. Mais parce que j'avais 6 ans de plus, j'ai été moins proche d'elle que ma sœur Lisa qui, elle, avait 1 an et demi de moins. Elles étaient quasiment forcées d'être toujours ensemble.
Ah là là, ce qu'elle a pu nous en faire voir. La méchanceté pure, monsieur l'inspecteur, comme ça, doit être très très rare.
Toute petite, déjà, elle crachait son venin. Elle a parlé très tôt, alors elle a été vite habile avec les mots. Elle savait faire du mal avec. Mais elle ne se contentait pas que des mots, elle frappait aussi, avec tout ce qui lui tombait sous la main. Un jour, elle a menacé maman avec le gros cendrier en verre taillé du salon. Une autre fois, c'était avec un couteau de cuisine, le plus long qu'elle a trouvé. Elle a failli la tuer. Il aurait fallu l'enfermer, elle n'était pas normale. Maman la menaçait souvent de l'envoyer dans une école de réforme. Elle aurait dû. Elle a été trop bonne, vous voyez ce que ça a donné. En tout cas, malgré tout, ma mère semblait la préférée à nous, je n'ai jamais compris. En plus, elle était la préférée de ma tante Amélie, qui demeurait avec nous. Elle traînait Léna partout et faisait ses 4 volontés. Pour finir, papa la considérait comme le garçon qu'il n'avait pas et il l'emmenait partout, lui aussi. On aurait dit qu'elle avait un pouvoir.
Et pourtant, il me semble que ça n'allait pas du tout avec votre mère.
Ça, c'est certain. Ces deux-là se chicanaient à chaque fois qu'elles se croisaient. Ça finissait toujours dans les gros mots, les hurlements et les claquages de porte. Horrible. Nous, on ne s'en mêlait jamais. Sauf quand Léna voyait trop rouge et menaçait maman de trop près.
Pas étonnant que maman soit tombée malade à 44 ans, avec une enfant pareille.
Vous croyez que la relation difficile entre Léna et votre mère a provoqué sa maladie ?
C'est évident. En réalité, c'est à ce moment-là qu'elle l'a vraiment tuée. Là, elle n'a fait qu'achever le travail. Si vous l'aviez vue, la sans-cœur, l'été où maman est tombée dans le coma en étendant son linge sur la galerie. Elle a dormi tout l'été sur le divan du salon, comme si de rien n'était. Elle savait bien que c'était de sa faute. Elle dormait parce qu'elle n'osait pas nous affronter. On lui a fait savoir, d'ailleurs, que c'était à cause d'elle que maman se mourait. Elle faisait l'hypocrite quand elle venait à l'hôpital. Elle nous versait quelques larmes. Mais on savait bien que c'était de la comédie et qu'elle était ravie, au fond, d'avoir réussi à vider la place. Surtout que ma tante Amélie a pris le contrôle de la maison à ce moment-là, pendant les 3 mois que maman a été paralysée. Puis après, quand elle a dû se rééduquer, ça a été long. Léna ne nous adressait plus la parole, elle filait doux, elle dormait, épuisée d'avoir gagné sur son ennemi juré. Quand maman est morte, enfin quand maman a été tuée, ça faisait 20 ans que sa vie était finie. Mais elle aurait pu vivre encore 20 ans si Léna n'était pas intervenue.
Commentaire de Léna suite au propos de sa sœur, l'inspecteur met l'enregistrement sur pause, l'image se fixe. Elle a raison. C'est vrai que ma mère était insubmersible. Elle était fatiguée morte et elle ne mourrait jamais s'il n'y avait pas eu cet accident.
Ce n'était pas un accident.
Elle avait l'habitude de l'agonie, vous savez. Elle comptait les points sur la mort, 10 à 0, 15 à 0 pour moi, et elle rayonnait de fierté. Les médecins, eux, ne pouvaient plus rien pour elle depuis longtemps. Vous croyez que vous allez me faire craquer en m'assénant sans prévenir la déposition de Laura ? Elle repart la vidéo.
Elle l'a tué le jour de ses 65 ans d'ailleurs, le 30 juillet. Elle aurait eu enfin sa pension, une vraie sadique.
Comment était votre relation avec votre sœur Léna ?
Correct. À cause de la différence d'âge, comme je vous ai dit. De toute façon, elle est partie jeune de la maison à 18 ans et moi j'étais déjà mariée. On ne l'a pas vue souvent depuis. Elle nous méprisait. Elle et maman ont cessé de se chicaner à partir de ce moment-là. En fait, la nouvelle tactique de Léna était de faire taire maman à chaque fois qu'elle commençait à dire quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et comme maman était malade, elle n'avait plus la même force de caractère qu'avant.
Alors, comment expliquez-vous ce meurtre si tout s'était tassé entre elles ?
La vengeance, monsieur l'inspecteur, purement et simplement. Elle a attendu son heure. Elle s'est retrouvée seule avec elle une nuit et elle en a profité. Ça s'est vu souvent des gens qui attendent 20 ans pour se venger de quelqu'un. La haine couve comme une braise. Elle nous a toutes déjouées. On ne s'est pas méfié, Lisa et moi, quand elle nous a dit que nous devrions aller nous coucher, qu'elle pouvait rester seule pour garder maman. On l'a même remerciée.
Avez-vous été surprise quand la nouvelle vous est parvenue ?
Un peu, quand même. L'enfance était loin. Je m'en suis voulu d'être partie cette nuit-là, mais une fois le choc passé, j'ai tout compris, c'était logique. Elle n'avait jamais cessé de la détester et attendait son heure. Et si elle essaie de vous faire gober qu'elle a fait tout ça pour abréger les souffrances de maman, ne la croyez surtout pas. Elle est capable de tout, mais certainement pas d'un geste humanitaire. Enfermez-la, c'est ce qu'on aurait dû faire quand elle était petite, si on avait su.
Ce sera tout.
De retour à Léna et l'inspecteur. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'a jamais été aimée comme elle aurait dû. Ça l'a rendue hargneuse et amère. Elle est intelligente pourtant. Elle devrait savoir que quand un accident peut se produire, il est sûr de se produire. J'ai lu ça récemment. C'est drôle qu'elle n'ait pas vu l'accident se préparer. Elle aurait pu me prévenir, prévenir maman. M'empêcher de rester seule avec elle, je ne sais pas moi. Elle aurait dû savoir. Elle a dû le voir en fait et elle n'a rien dit. Quelle mesquinerie.
Vous arrive-t-il parfois d'avoir des émotions, des réactions, comme tout le monde ? Quand j'ai dit à votre sœur que vous défendiez la thèse de l'accident, elle a éclaté de rire. Elle a l'air de s'attendre à n'importe quoi de votre part.
Je veux aller dormir.
Je n'en ai pas fini avec vous. J'ai encore une petite vue à vous montrer.
Avec Lisa, je suppose, comme actrice principale ?
10 sur 10.
Je connais aussi ce film par cœur. Je crois même me souvenir que c'est moi qui l'ai écrit. Je veux aller dormir. Si ça vous fait plaisir, regardez-le sans moi. Vous me raconterez.
Non. Vous allez le regarder avec moi. Je veux vous voir le regarder.
Vous espérez que je m'écroule en larmes ? C'est raté. Votre dossier est complet. Laissez-moi préparer ma défense. La justice des hommes coûte cher pour expliquer un événement qui a déjà toutes les explications nécessaires. Arrêtez les frais. Je suis très sensible aux coûts sociaux. N'oubliez pas que nous sommes 5 milliards maintenant à nourrir. Je veux aller dormir.
L'inspecteur parle vidéo. Déposition de Lisa Fulvi, sœur de l'accusé.
Lisa Fulvi, 34 ans. Nous avons 18 mois de différence, Léna et moi. Est-ce que je peux fumer? On étouffe ici, vous ne pourriez pas ouvrir la fenêtre?
La personne de dos sort un instant de l'image, puis revient.
Merci. Comment va-t-elle? Elle doit être soulagée au fond de l'avoir fait, depuis le temps. Ça soulage quand on fait un geste qu'on retient depuis longtemps. Elle aurait dû se dépenser physiquement, faire du sport, suivre des cours de karaté, ça lui aurait peut-être fait du bien. Elle ne l'aurait peut-être pas tuée si elle avait évacué le mauvais en elle. Léna est une intellectuelle.
Vous n'avez pas l'air de douter un instant de la culpabilité de votre sœur.
Non, pourquoi? Est-ce qu'on ne l'a pas arrêtée et inculpée? Je pensais qu'une infirmière l'avait vue faire. Il y a de nouveaux développements?
Non. Non, mais on se serait attendu à ce que vous la défendiez un peu.
Comment voulez-vous qu'on la défende quand quelqu'un l'a vue faire? On passerait pour des vraies folles. On ne peut pas faire ça. De toute manière, moi, je n'ai jamais rien compris de ce qui se passait entre elle et maman. Ça avait l'air terriblement compliqué, du genre attraction-répulsion. C'est bien comme ça qu'on dit?
Oui. Léna était une personne violente?
Oui. Surtout que j'étais une de ses victimes préférées quand on était petite. Elle me tirait les cheveux, me pinçait, me traitait de grosse. J'ai toujours été un peu rondelette. Et moi, je la traitais de maudite maigre et je pleurais. Je me plaignais. J'aimais ça. Mais ce sont des histoires d'enfants. J'ai couru jeune après les garçons et elle, non. Elle a toujours préféré les livres. Et quand elle est partie pour Montréal, je n'ai plus rien su de sa vie. Est-ce qu'elle a continué à être violente, là-bas aussi?
Je suis mandatée seulement pour recueillir votre déposition et celle de votre sœur Laura.
Ah, vous avez rencontré Laura? Une forte personnalité. Je l'admire beaucoup, fiez-vous sur elle. Tout ce qu'elle vous a dit doit être juste. Elle est très fine psychologue, vous savez. Qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Il ne s'agit pas de Laura, il s'agit de vous. Parlez-moi encore de votre relation avec Léna.
Ma relation avec Léna? Je ne sais pas trop. Elle était plus vieille que moi, plus aventureuse aussi. À l'école, c'était une bolle, et moi ça ne m'intéressait pas. Elle se moquait beaucoup de moi parce que je pleurais tout le temps, pour rien, selon elle. Elle m'a souvent fait de la peine, en tout cas. Mais ça doit être toujours comme ça entre deux sœurs qui sont trop proches.
Parlez-moi de sa relation avec votre mère.
Oh, elle ne s'entendait pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce sont des choses qui arrivent dans toutes les familles, on ne choisit pas ses parents. Moi, je dis qu'elles étaient trop pareilles pour s'entendre. J'ai toujours trouvé qu'elles se ressemblaient parce que j'avais peur des deux. Mais je n'ai pas vraiment de souvenirs. Il paraît qu'elle a traité ma mère de maudite chienne à 3 ans. Elle a toujours été très précoce. Moi, je pleurais, évidemment, quand elle et maman se chicanaient trop fort. Alors je ne me souviens pas de ce qu'elle se disait. Il faut dire que Léna était très sauvage aussi. Elle s'enfermait souvent dans notre chambre des journées entières avec un livre ou sa flûte. Maman n'arrêtait pas de lui dire d'aller s'éventer dehors, qu'elle allait finir par sentir le moisi et rester vieille fille comme ma tante Amélie. Léna était très cultivée, vous savez. Au bout du compte, je crois que de trop lire, ça rend fou. Maman lui disait souvent, et elle avait raison. Elle en savait trop sur tout, et ce n'est bon pour personne.
Avez-vous été surprise quand vous avez su la nouvelle?
Non, je ne sais pas, pas vraiment. Vous comprenez, ça faisait 20 ans qu'on attendait ce téléphone-là. Ça a été cette fois-là, il fallait bien que ça arrive un jour.
Oui, mais que ce soit votre sœur qui l'ait tuée, c'est différent, non?
Oui, peut-être. Oui, c'est différent, mais ça donne le même résultat au bout du compte. Elle n'allait plus jamais souffrir.
Qui n'allait plus jamais souffrir? Votre mère ou Léna?
Les deux, peut-être. Vous ne pensez pas que Léna devait souffrir beaucoup pour aller jusque-là? Moi, je dis qu'elle s'est soulagée.
Vous n'avez pas été surprise qu'elle ait tué votre mère?
Non, elle était tellement surprenante qu'on s'était habitué à tout avec elle. Elle faisait des coups de tête.
Oui, mais elle n'avait jamais tué personne avant.
Je ne sais pas. Elle aurait pu. C'est drôle, on est 3 sœurs, mais on ne se ressemble pas du tout.
Est-ce que vous lui en voulez?
Lui en vouloir? Laura dit que je suis trop molle dans mes réactions, que c'est horrible ce qu'a fait Léna. Mais moi, je me dis que maman ne souffrira plus. C'est tout ce que je vois, et je ne veux rien voir d'autre.
On dirait que cette histoire vous est égale.
C'est une histoire entre Léna et maman. Et aujourd'hui, je ne pleure plus jamais pour rien. Est-ce qu'ils vont la condamner ou la faire soigner? Elle a toujours été un peu folle, vous savez, ce n'est pas de sa faute. Avez-vous fini? Je dois passer prendre mon fils chez son père.
De retour à Léna et l'inspecteur. Alors cet accident, vous le laissez tomber?
Jamais. Lisa n'a pas changé. Je ne sais toujours pas si elle me hait ou si elle m'admire secrètement. M'aimer, ça...
Ça ne vous fait ni chaud ni froid.
Ça fait longtemps que je vis en dehors des températures et de leurs intempéries, monsieur l'inspecteur. Je suis née avec un parapluie, un paratonnerre intégré dans un abri antinucléaire. Votre humour ne se dément jamais contre vents et marées pour continuer dans les comparaisons climatiques. Léna.
Ah, où est passé mon nom de famille? Que me vaut cette attaque subite d'intimité, monsieur l'inspecteur?
Vous ne pouvez pas m'écouter sérieusement une seconde seulement. Mademoiselle Fulvie ou madame ou machin chouette, je m'en fous. Après avoir bien écouté les dépositions de vos sœurs, après avoir relu la vôtre, si on peut appeler déposition cette espèce d'autobiographie fantaisiste, après avoir revu tous les éléments du dossier, je vais vous dire quelque chose de complètement farfelu, je vous préviens. Après avoir consulté cette masse d'informations qui va dans le même sens, aucun élément de contradiction flagrant, tout prouve la haine, j'en suis venu à la conclusion que je me suis trompé à votre sujet. Je suis parti sur une fausse piste sur laquelle vous m'avez entraîné, j'ai été un peu naïf.
Aboutissez. Qu'est-ce que vous avez découvert de si nouveau? Vous m'intriguez.
Ah, un bon point pour moi, j'ai réussi à l'intriguer. J'en suis venue à la conclusion que, loin de détester votre mère, vous l'adoriez. Et que c'est par amour que vous l'avez tuée, contrairement aux apparences. Qu'est-ce que vous dites de ça, Léna Fulvie? C'est la même hypothèse, mais à l'envers.
La réponse de Léna se traduit d'abord par un fou rire inextinguible, long, contagieux. L'inspecteur finit par rire, lui aussi, un peu malgré lui, un peu jaune. Dans son rire, Léna hoquette quelques phrases. Par amour, c'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Et elle rit, et elle rit. Elle se lève de sa chaise, s'approche de l'inspecteur en continuant de rire aux larmes. Elle s'accroche à son cou et lentement, elle se met à sangloter et à lui fesser la poitrine avec ses poings.
Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de dire ça. Contentez-vous de vos preuves lumineuses, vous les avez vos preuves, pourquoi chercher ailleurs, sale type, sale type?
Et elle continue de fesser sur lui qui se laisse faire.
Je vous déteste tous. Je la détestais, elle, depuis 35 ans et je l'ai tuée à cause de ça. Je me suis vengée de sa froideur, de son sale caractère. Contentez-vous de ça. Elle était inaccessible. Elle ne voulait jamais qu'on la touche. Je l'ai tuée à cause de ça. Il n'y a rien d'autre à comprendre, psychologue de mon cul. Vous n'aviez pas le droit de me dire ça. Pas le droit. Je veux dormir, dormir, dormir.
Léna pleure sans arrêt en glissant lentement le long du corps de l'inspecteur auquel elle n'a pas cessé de s'accrocher. Elle finit en boule à ses pieds comme un petit chien. Elle pleure plus silencieusement. On peut imaginer qu'elle s'est endormie. L'inspecteur prend le téléphone sans bouger de sa position, comme s'il avait peur de casser quelque chose.
« Pierre, viens vite. Quelqu'un vient de se défaire devant moi et je ne sais pas comment ramasser les morceaux. »
Il raccroche, le regard fixe.
Mais je me souviens de répétitions exigeantes. Parce que texte difficile. Hélène a toujours aimé l'écriture, les romans policiers, l'écriture policière. Il y a même une citation de Ruth Rendell, je pense, au début de la déposition. Et elle avait une fascination justement pour ces espèces de patterns d'interrogatoire. Et on est quand même, quand tu lis ça, là, maintenant, tu regardes ça, tu te dis, on est dans, je ne sais pas, dans une autre époque, mais une manière de faire d'une autre époque qui était déjà un peu, comment je dirais, comme des vieux films de Chabrol, des vieux films américains ou même très, très français, l'inspecteur et le ou la coupable, interrogatoire, discussion, huis clos, choix des mots, manière de manier la langue, trouver en fait la façon de faire des digressions, de nous permettre de ne pas aller exactement là où on pense aller. Elle avait un plaisir fou à ça. Et c'est là-dedans qu'on est entré. J'avais vraiment l'impression de c'était pas la langue parlée d'Hélène. C'est vraiment, c'était une langue littéraire qui restait entre ces deux personnages. Jamais un interrogatoire aura eu lieu comme ça chez nous. Là, elle avait porté ça dans un certain romantisme de la chose. Et ça, c'était excitant parce que ça prend ça prend... Il y a une théâtralité qui naît inévitablement, mais il faut savoir la... Il faut savoir la travailler, il faut savoir la rendre cette forme crédible pour le spectateur et qu'il fasse pas ben, j'y crois pas, c'est ringard, ça se peut pas. Alors, donc c'était du c'était fragile. Du petit fil de soie entre chaque réplique, les corps aussi dans l'espace, le travail des regards, des mains, on a vraiment pris le temps de la chose, je me souviens, avec alors qu'on savait que les deux sœurs, qui elles étaient faites en vidéo, une fois que c'est fait, c'est figé. Alors il fallait que ce qui soit sur scène ne se fige jamais, existe, mais que les enjeux soient aussi clairs que difficiles à rendre à chaque soir pour les acteurs.
Mais on l'a joué quand même au-delà de 100 fois, cette pièce. C'est beaucoup au Québec. C'est vraiment beaucoup. Donc, ça touchait les gens, ça... Ouais. On l'a joué le soir de la Polytechnique. Ça, je m'en rappelle. Parce qu'on était... On faisait une tournée des Maisons de la Culture... J'étais avec Eudore Belzile à ce moment-là. René Gagnon avait laissé, puis bon. Puis on était à Notre-Dame-de-Grâce, un tout petit théâtre de la Maison de la Culture. Puis c'est comme, avant de jouer, on a eu comme un écho de quelque chose. Puis on n'était pas loin de l'université, en fait. Puis on a eu comme un écho de quelque chose, mais c'était flou. Puis tu sais, c'était les loges, puis je sais pas trop là. Mais c'est après. Ouais, c'est après qu'on l'a su. Oh. Ouais, fait qu'on a joué la déposition ce soir. Bon. Ouais.
Vous venez d'entendre la deuxième partie de La Déposition, une pièce de théâtre de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Claude Poisson et Louise Laprade. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Gros.